Journal de Mina Harker, 22 septembre. J'écris dans le train qui nous ramène à Exeter. Jonathan dort. Il me semble que c'est hier que j'ai écrit les dernières lignes de ce journal. Et pourtant, combien de choses se sont passées depuis lors, depuis qu'à Whitby nous faisions des projets d'avenir, alors que Jonathan était au loin et que j'étais sans nouvelles de lui. Et maintenant, me voilà mariée à Jonathan, qui est solliciteur maître de sa propre étude. Mr. Hawkins est mort et enterré, et Jonathan vient d'être victime d'une nouvelle crise qui, j'en ai peur, peut avoir de fâcheuses conséquences. Un jour, peut-être me questionnera-t-il à ce sujet. Je m'aperçois que j'ai la main un peu rouillée pour la sténographie, à quoi mène une fortune inattendue, de sorte qu'il serait peut-être souhaitable de m'y exercer à nouveau, de temps en temps. Le service a été très simple, très émouvant. Il n'y avait que nous et les domestiques, deux ou trois de ses vieux amis d'Exeter, son agent londonien et un autre monsieur qui représentait Sir John Paxton, le président de l'Incorporated Law Society. Jonathan et moi, nous nous tenions la main dans la main et nous sentions que notre ami le meilleur, notre ami le plus cher, nous quittait à jamais. Pour revenir en ville, nous avons pris un bus qui nous a déposés à Hyde Park Corner. Jonathan, pensant me faire plaisir, me proposa d'entrer dans la grande allée du parc. Nous allâmes donc nous y asseoir, mais il n'y avait que très peu de monde et toutes ces chaises vides. C'était un spectacle bien triste, qui nous fit penser à la chaise vide que nous trouverions en rentrant chez nous. Aussi, nous ne restâmes pas là et nous nous dirigeâmes vers Piccadilly. Jonathan avait pris mon bras, comme il le faisait toujours autrefois pour me conduire jusqu'à l'école. À vrai dire, cela ne me paraissait pas très convenable, car on n'enseigne pas pendant des années le savoir-vivre à des jeunes demoiselles sans en être soi-même quelque peu marqué. Mais maintenant, Jonathan était mon mari. Nous ne connaissions aucune personne que nous croisions, et peu nous importait si l'une ou l'autre d'entre elles nous reconnaissait. Nous marchions, allant droit devant nous. J'eus l'attention attirée par une très belle jeune fille, coiffée d'un immense chapeau et assise dans une victoria qui était arrêtée devant la maison Gilliano. Au même instant, la main de Jonathan me serra le bras au point que j'en eus mal. Et je l'entendis me murmurer à l'oreille, presque en retenant sa respiration, « Mon Dieu !» Il ne se passe pas de jour que je ne sois inquiète au sujet de Jonathan, car j'ai toujours peur qu'une nouvelle crise nerveuse ne l'ébranle. De sorte que je me tournai vivement vers lui et lui demandai ce qui se passait. Je le vis très pâle, ses yeux exorbités et brillants à la fois, de frayeur et d'étonnement, semblait-il, restait fixé sur un homme grand et mince, au nez aquilin, à la moustache noire et à la barbe pointue, qui lui aussi regardait la ravissante jeune fille. Il la regardait même si attentivement qu'il ne nous remarqua ni l'un ni l'autre, de sorte que je pus l'observer tout à mon aise. Son visage n'annonçait rien de bon. Il était dur, cruel, sensuel, et les énormes dents blanches, qui paraissaient d'autant plus blanches entre les lèvres couleur rubis, étaient pointues, comme les dents d'un animal. Jonathan continua longtemps à le fixer des yeux, et je finis par craindre que l'homme ne s'en aperçût et ne s'en formalisât. Vraiment, il avait l'air redoutable. Quand je demandai à Jonathan la cause de son trouble, il me répondit, croyant évidemment que j'en savais aussi long que lui, « L'as-tu reconnu ?»« Mais non, je ne le connais pas, qui est-ce ?» Sa réponse fut pour moi un véritable choc, car au ton sur lequel il la fit, on eût dit qu'il ne savait plus que c'était à moi, Mina, qu'il parlait.
« Mais c'est lui ! C'est cet homme !»
Le pauvre chéri était évidemment terrifié par quelque chose, extraordinairement terrifié. Je crois que si je n'avais pas été près de lui, que s'il n'avait pas pu s'appuyer sur moi, il serait tombé. Il regardait toujours celui qui, pour moi, était un inconnu. Un homme sortit alors du magasin, tenant à la main un petit paquet qu'il donna à la demoiselle. L'autre ne la quittait pas des yeux. Et quand la voiture démarra pour remonter Piccadilly, il suivit la même direction et appela un cabriolet. Jonathan le suivit encore des yeux un moment, puis il dit, comme s'adressant à lui-même, « Oui, je crois bien que c'est le comte, mais il a rajeuni. Mon Dieu, si c'est lui, oh mon Dieu, si au moins je savais, si au moins je savais. » Il se tourmentait à tel point que je me gardais bien de lui poser la moindre question, de peur d'entretenir chez lui ses pensées qui le torturaient. Je restai donc silencieuse. Je le tirai doucement, et comme il me tenait le bras, il se laissa entraîner. Nous reprîmes notre promenade et nous entrâmes dans Green Park, où nous nous assîmes un moment. Cette journée d'automne était chaude, et nous choisîmes pour nous reposer à un banc sous un bouquet d'arbres. Jonathan regarda quelques minutes dans le vide, puis ferma les yeux et s'endormit tranquillement, la tête sur mon épaule. J'en étais ravie, me disant que rien ne pourrait lui faire plus de bien. Au bout de 20 minutes, il s'éveilla et me dit sur un ton très gai, « Mina !» Je m'étais endormie. « Oh, pardonne-moi, ma chérie. Viens, nous irons prendre une tasse de thé quelque part. » Je m'en rendais compte. Il avait tout oublié de la rencontre que nous venions de faire. De même que pendant la maladie, il avait oublié tout ce que cet incident venait de lui rappeler. Qu'il recommença ainsi à oublier certaines choses ne me plaisait pas. Ses facultés mentales pourraient en souffrir de nouveau, ou plutôt en souffrir davantage. Mais, encore une fois, je ne pouvais pas lui poser de questions. C'eût été lui faire plus de mal que de bien. Je dois pourtant connaître la vérité sur son voyage à l'étranger. Le temps est venu, je le crains, où il me faut délier le petit ruban bleu et lire ce qui est écrit dans le calepin. Oh, Jonathan, tu me pardonneras, je le sais, et si je le fais, c'est pour ton bien. Un peu plus tard, triste retour à la maison pour plus d'une raison. La chère âme qui avait été si bonne n'était plus là. Jonathan avait la pâleur d'un malade après cette légère rechute. De plus, un télégramme d'un certain Van Helsing nous attendait. « J'ai le regret de vous annoncer la mort de Mrs. Westenra, survenue il y a 5 jours, et celle de sa fille, Lucie, avant-hier. Toutes deux ont été enterrées aujourd'hui. » Oh, comme quelques mots seulement peuvent signifier tant de choses tristes. Pauvre Mrs. Westenra, pauvre Lucie, partie pour toujours. Et pauvre Arthur, dont la vie est désormais privée d'une si douce présence. Dieu nous aide tous à supporter notre chagrin.
Journal du docteur Seward. 22 septembre. Tout est donc fini. Arthur est reparti pour Ring et il a emmené Quincy Morris avec lui. Quel admirable garçon ce Quincy. Très sincèrement, je crois qu'il a souffert de la mort de Lucie autant que n'importe lequel d'entre nous, mais il a su garder son sang-froid avec un courage de viking. Si l'Amérique continue à produire des hommes semblables à celui-ci, elle deviendra assurément une puissance dans le monde. Quant à Van Helsing, il se repose avant d'entreprendre son voyage de retour. Il doit rentrer à Amsterdam, où il veut s'occuper personnellement de certaines choses. Il compte pourtant revenir demain soir et restera ici, s'il le peut, car il a précisément à faire à Londres un travail qui peut lui prendre un certain temps. Je crains, je l'avoue, que l'épreuve à laquelle il vient d'être soumis n'ait affaibli sa résistance, pourtant de fer. Pendant les funérailles, je remarquai qu'il s'imposait une contrainte peu ordinaire. Quand tout fut fini, nous nous retrouvâmes à côté d'Arthur, qui parlait avec émotion du sang qu'il avait donné pour Lucie. Je vis Van Helsing pâlir et rougir tour à tour. Arthur disait que, depuis lors, il avait le sentiment d'avoir été réellement marié à Lucie, qu'elle était sa femme devant Dieu. Bien entendu, aucun de nous ne fit allusion aux autres transfusions de sang, et jamais nous n'en dirons mot. Arthur et Quincy s'en allèrent ensemble vers la gare. Van Helsing et moi revînmes ici. À peine étions-nous montés en voiture que le professeur fut pris d'une crise de nerfs. Par après, il l'a fortement nié, me disant que c'était tout simplement son sens de l'humour qui se manifestait de la sorte, en ces pénibles, en ces terribles circonstances. Il commença par rire, rire aux larmes, si bien que je dus baisser les stores de la voiture afin que personne ne le vît dans cet état. Puis il pleura réellement, puis se remit à rire, enfin rit et pleura tout ensemble comme une femme. Et comme l'on agit envers une femme, je voulus lui faire entendre raison, lui parler avec quelque sévérité. En vain. Dans une situation semblable, les femmes ont des réactions différentes de celles des hommes. Quand enfin son visage reprit son expression grave et sérieuse, je lui demandai ce qui, chez lui, avait pu provoquer une telle gaieté, en un tel moment. Sa réponse tout à la fois logique et sibylline lui ressemblait bien. « Ah, John, mon ami, vous ne me comprenez pas. Ne pensez pas que je ne suis pas triste parce que je ris. Je pleurais alors même que j'étouffais à force de rire, mais n'allez pas croire non plus que j'éprouve seulement de la tristesse quand je pleure. N'oubliez jamais que le rire qui frappe à votre porte et qui demande « puis-je entrer ?» n'est pas le rire véritable, non. C'est un roi, et il vient chez vous quand ça lui plaît et comme ça lui plaît. Il n'en demande la permission à personne. Seul son bon plaisir importe. Tenez, par exemple, je me suis tourmenté nuit et jour à propos de cette douce jeune fille. Bien que vieux et fatigué, j'ai donné mon sang pour essayer de la sauver. J'ai donné mon temps, ma science, mon sommeil. J'ai abandonné mes autres malades pour me consacrer entièrement à elle. Et pourtant, pour un peu, j'aurais éclaté de rire sur sa tombe, et je ris encore quand le bruit de la première pelletée de terre que le fossoyeur a jetée sur sa tombe retentit dans mon cœur, au point que le sang me vient aux joues. Ce n'est pas tout. Mon cœur saigne quand je pense à ce pauvre garçon, à ce cher garçon. Mon fils aurait exactement son âge si j'avais eu le bonheur de le garder. Et par les yeux, par les cheveux, il se ressemble. Vous comprenez maintenant, n'est-ce pas, pourquoi je l'aime tant? Et malgré cela, quand il nous parle de certains de ces sentiments qui font vibrer mon cœur d'époux et font naître dans mon cœur paternel une attirance que je n'ai jamais éprouvée pour aucun de mes élèves, non, pas même pour vous, mon cher John, car tout ce que nous avons déjà fait et vécu en commun nous a mis sur un pied d'égalité plutôt que dans une relation de père à fils. Malgré cela, et même alors, Sa Majesté le rire vient à moi et me crie dans l'oreille « Me voilà, me voilà !» si bien qu'un afflux de sang me met aux joues une rougeur de soleil. Oh, mon ami John, quel étrange monde que le nôtre, hein? Un monde bien triste, plein de soucis, de misère, de malheur. Et pourtant, quand arrive le rire, tout se met à danser sur l'air qu'il plaît à Sa Majesté de jouer. Les cœurs qui saignent et les ossements dans les cimetières et les larmes qui brûlent les joues, oui, tout cela danse ensemble au son de la musique qu'il émet de sa bouche, où le moindre sourire ne se dessine jamais. Croyez-moi, mon ami, nous devons lui en savoir gré, car nous, les hommes et les femmes, on pourrait nous comparer à des cordes que l'on tire de côté et d'autre, mais alors viennent les larmes, et semblables à l'effet de la pluie sur les cordes, elles nous raidissent, peut-être jusqu'à ce que la tension devienne vraiment insoutenable, et alors nous cassons. À ce moment, le rire arrive comme un rayon de soleil, et il détend la corde. Ainsi, nous parvenons à poursuivre notre travail, quel qu'il soit. Je ne voulus pas le blesser en lui avouant que je ne saisissais pas très bien son idée. Toutefois, comme malgré son explication, je ne comprenais pas encore la cause de son rire, je le lui dis franchement. « Oh ! » fit-il, « voilà justement l'ironie la plus lugubre. Cette charmante jeune fille étendue parmi les fleurs et paraissant aussi belle que la vie elle-même, au point que, l'un après l'autre, nous nous sommes demandé si elle était réellement morte. Elle repose maintenant dans son tombeau de marbre, dans ce cimetière, à l'écart, où reposent aussi tant des siens et sa mère qui l'aimait tendrement et qu'elle aimait tendrement, et ce glas qui sonnait, oh, si lentement, si tristement, et tous ces prêtres avec leurs vêtements blancs qui ressemblaient à des anges et qui feignaient de lire dans leurs livres alors que leurs yeux à aucun instant ne suivaient le texte. Et nous tous, la tête courbée, et tout cela pourquoi ? Elle est morte, n'est-ce pas ? Mais, professeur, fis-je, je ne vois pas bien ce qu'il y a là-dedans de risible. Vos explications sont pour moi de plus en plus embarrassantes, et même si le service funèbre avait quelque chose de comique, est-ce que le pauvre Arthur, souffrant comme il souffre, justement, n'a-t-il pas dit que le sang qu'il avait donné à Lucie avait fait d'elle sa femme ? Si, et cette idée visiblement le réconfortait. Très vrai. Mais ici, mon ami, surgit une petite difficulté, car s'il en était ainsi, si, à cause de la transfusion de sang, il avait l'impression que Lucie était réellement devenue sa femme, n'en irait-il pas de même pour nous ? Oh, oh, Lucie, la charmante Lucie aurait donc eu plusieurs maris, et moi, moi qui ai perdu ma pauvre femme, laquelle est pourtant vivante selon l'Église, moi, l'époux fidèle à cette femme qui n'est plus sur terre, je serais bigame. Encore une fois, je ne vois point qu'il y ait là sujet de plaisanterie, déclarai-je, et au vrai, ces remarques ne me plaisent guère. Posant sa main sur mon bras, il reprit « Mon ami John, pardonnez-moi si je vous fais de la peine. Je n'ai pas fait part de mes sentiments aux autres, cela aurait pu les blesser, mais à vous, mon vieil ami, je me confie sans crainte, si vous aviez pu voir ce qui se passait au fond de mon cœur, au moment où je désirais rire, au moment aussi où le rire est arrivé, et si vous pouviez voir ce qui s'y passe maintenant encore, que Sa Majesté le Rire a enlevé sa couronne et plié bagage, car il s'en va très très loin de moi, et pour très très longtemps, alors peut-être de nous tous, ce serait moi que vous plaindriez le plus. » Pourquoi ? Demandai-je, fort ému à présent par le ton sur lequel il avait prononcé ses dernières paroles. Parce que je sais. Maintenant nous sommes tous séparés, et la solitude va être notre lot à chacun, la solitude qui planera sur nos toits. Lucie repose donc dans le tombeau de sa famille, un tombeau seigneurial au milieu de ce cimetière où les bruits de Londres n'arrivent pas, où l'air est pur, où le soleil se lève sur Hampstead Hill et où poussent les fleurs sauvages, de sorte que je peux terminer ce journal, et Dieu seul sait si j'en commencerai jamais un autre. Si je le fais, ou si même je reprends celui-ci, en tout cas, ce sera pour parler d'autres personnes et m'occuper de sujets différents. Maintenant qu'est racontée l'histoire de ma vie amoureuse et avant que je ne retourne à ma vie de travail, je prononce tristement, et sans être animé d'aucun espoir, le mot. Fin. The Westminster Gazette, 25 septembre. Un mystère à Hampstead. Les environs de Hampstead connaissent en ce moment des événements qui rappellent ceux dont notre journal a naguère parlé en des articles intitulés « L'horreur de Kensington » ou « La femme poignardée » ou encore « La dame en noir ». En effet, depuis deux ou trois jours, on a signalé le cas de jeunes enfants disparus du foyer paternel ou qui n'y sont pas rentrés après être allés jouer sur la lande. Chaque fois, il s'agissait d'enfants trop jeunes pour qu'ils puissent fournir des explications satisfaisantes, mais tous ont donné comme excuse qu'ils avaient accompagné la dame en sang. Et chaque fois aussi, c'est fort tard le soir que l'on s'est aperçu de leur disparition. En ce qui concerne deux de ces enfants, on ne les a retrouvés qu'aux premières heures du lendemain. On suppose que le premier des enfants disparus ayant raconté ensuite que la dame en sang lui avait demandé de faire une promenade avec elle, les autres se sont tout simplement contentés de dire la même chose. Car on sait que les enfants d'aujourd'hui n'aiment rien tant que de s'emprunter des ruses les uns aux autres. Un correspondant nous écrit que de voir certains de ces bambins imiter tant bien que mal la dame en sang est un spectacle des plus drôles. Certains de nos caricaturistes, ajoute-t-il, pourraient assurément apprendre beaucoup à regarder ces imitations grotesques. Toutefois, l'affaire n'est pas sans poser un problème très sérieux, puisque deux de ces enfants, ceux-là même qui ne sont pas revenus de toute la nuit, ont été légèrement mordus à la gorge. Il semble qu'il s'agisse de morsures faites par un rat ou par un petit chien, et bien qu'aucune de ces blessures ne soit grave, elle donnerait la preuve que, rat ou chien, l'animal procède selon une méthode qui ne varie jamais. La police a reçu des ordres afin d'observer tout enfant, surtout s'il est très jeune, qu'elle apercevrait sur la lande d'Hampstead ou dans les environs, comme aussi tout chien égaré qui pourrait errer de ce côté. The Westminster Gazette, 25 septembre, édition spéciale, l'horreur de Hampstead, une nouvelle victime. Nous apprenons à l'instant qu'un autre enfant disparu hier soir vient seulement d'être retrouvé ce matin assez tard sous un buisson d'ajoncs de Shooter's Hill, qui fait partie de la lande d'Hampstead, mais cet endroit de la lande est peut-être moins fréquenté. L'enfant porte la même petite blessure à la gorge qu'avaient les premières innocentes victimes. Il était blême et dans un grand état de faiblesse quand on l'a découvert. Lui aussi, dès qu'il fut un peu revenu à lui et a pu parler, a dit qu'il avait été entraîné par la dame en sang.